Session de philosophie par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard, le 5 juillet 93.
Excusez-moi, c'est pas commode quand on vient. Cardinal qui est là. On fait pas tout à fait ce qu'on veut. Alors, vous comprenez, pas la peine de mettre tous les intermédiaires avec un peu de confiture. Comment le philosophe découvre-t-il l'existence de l'âme? Je veux bien m'engager là-dedans. Mais ce n'est peut-être pas tout à fait le lieu. Mais en deux mots, simplement, pour notre âme, parce que c'est vrai, c'est un des gros problèmes d'aujourd'hui, ça il faut se le dire. Ce qui nie l'existence de l'âme. Je me souviens, je te donne ça à titre d'expérience, parce que ça fait bien comprendre la chose. C'était quand j'étais à Fribourg. Le professeur de philosophie de Lausanne, qui est mort maintenant, mais qui était un ami, m'avait dit que tous mes étudiants sont sous l'influence de Merleau-Ponty. Et donc pour eux, il n'y a pas de distinction entre l'âme et le corps. Et alors on parlait ensemble, il m'a dit, je peux pas vous inviter, c'était avant le concile, hein. Je peux pas vous inviter à l'université, vous venez de Fribourg. Papiste. Et donc, la distinction entre l'intelligence et la foi n'existe pas. C'est ça qui est affolant de ces choses-là. Et autant du côté protestant que du côté catholique. La philosophie est inconfessionnelle. Elle est humaine, c'est tout. Et il faut revendiquer ça aujourd'hui. Moi, j'ai revendiqué farouchement quand j'étais à Fribourg. Mais il y a des préjugés. Alors, puisqu'il est catholique, il a une philosophie catholique. Mais il n'y a pas de philosophie catholique. Il y a une philosophie humaine. Tout simplement. Tout ce qui est humain est le patrimoine humain. Et la grâce ne détruit pas la nature. Faut être farouche là-dessus. Autrement, c'est du fidéisme pratique. Et le fidéisme pratique est condamné par l'Église. Donc, être vraiment catholique, c'est respecter la philosophie. Et pour tous les hommes qui veulent être intelligents et réfléchir sur eux-mêmes. Alors, je dis, je ne peux pas vous inviter à l'université, parce que vous êtes de Fribourg. Moi, je le ferai bien, mais je sais que ça ne se comprendra pas. Alors, j'invite chez moi tous mes étudiants de philosophie, si vous voulez, un soir. Puis je vous invite. Puis vous leur montrerez comment il y a une distinction entre l'âme et le corps. Et comment vous, en tant que philosophie, en tant que philosophe, vous respectez cette distinction. Non pas parce qu'elle est grecque, non pas parce que c'est Saint Thomas ou Aristote, mais parce que si on réfléchit sur l'homme, on est obligé de distinguer l'âme et le corps. Oui, c'est très très actuel ça. Vous voyez, Jean Bernard, le professeur Jean Bernard m'a raconté cette petite histoire très jolie. L'instituteur de son village, comme il descendait dans sa maison de famille, c'est lui qui m'a dit ça. L'instituteur de son village lui dit, est-ce que vous ne pourriez pas venir faire un petit cours à mes petits étudiants, mes petits enfants de 10 ans à 15 ans. Ils seraient tellement contents, vous comprenez, revenant chez eux, dire Jean Bernard est venu nous parler de la biologie. Ben, évidemment, l'école prend une valeur extraordinaire à ce moment-là. Bon, il fait son cours, puis il leur dit, n'hésitez pas à décrire vos questions. Hein? Je vous le dis aussi. N'hésitez pas à décrire vos questions. Vous les passez pour les carrefours, mais s'il y a des questions, quoi, autres, vous pouvez toujours l'écrire. Alors il reçoit ce qu'il m'a dit. Je reçois le divier d'une écriture extraordinairement soignée. Signé Brigitte, monsieur le professeur, merci de ce que vous nous dites, mais vous n'avez rien dit sur l'âme. Il m'a dit, selon l'écriture, c'est une petite fille de 10 ans. Chrétienne ? Alors au catéchisme, on a parlé sur l'âme. Ou en famille, sa maman. Monsieur le professeur, c'est très bien vos cours, mais vous n'avez rien dit sur l'âme. Il n'y a qu'un enfant de 10 ans qui peut dire ça à Jean Bernard. Hein. L'âme, c'est très bien votre cours de biologie, mais l'âme, eh bien, ça a secoué Jean Bernard. Il a écrit un livre, Qu'est-ce que l'âme dit Brigitte ? Je trouve ça merveilleux, du reste. Ça montre que c'est un homme qui reste humain. Et qui reste ouvert à quelque chose. Il a écrit un livre, Qu'est-ce que l'âme ? Alors évidemment, il n'est rien dit sur les philosophes qui parlent de l'âme. C'est littéraire, c'est poétique. C'est spirituel, c'est mystique, et rien sur le philosophe. Je ne l'ai pas dit, c'est parce que c'est pas la peine. Et c'est dommage. C'est là parce qu'il n'y a pas de dialogue entre biologistes et philosophes. Pour vous montrer l'état de la chose aujourd'hui, un groupe de jeunes théologiens que je connais bien, de Paris, m'ont invité. Il y a 5-6 ans. Mon père, est-ce que vous ne pourriez pas nous parler de l'âme en philosophe ? Est-ce que quelqu'un comme Merleau-Ponty refuse la distinction âme et corps ? Alors j'aurais fait ce cours le mieux possible. C'était une quinzaine. Résultat, conclusion. C'est très intéressant ce que vous dites. Mais ce qui est terrible, c'est que l'âme n'est plus sur le marché philosophique. Alors, j'ai failli bondir en colère, prendre le fouet et chasser les vendeurs du temple. Qu'est-ce que ça veut dire au point de vue philosophique ? Ce n'est plus sur le marché philosophique. Est-ce que le philosophe cherche la vérité ? Si la distinction de l'âme et du corps est vraie, le philosophe doit maintenir cette distinction à travers tout. Même si personne ne l'écoute, ça n'a pas d'importance. On dit la vérité, on la recherche. Et il y aura toujours un pauvre type qui écoutera. Donc ils seront deux. toujours comme ça. Des gens qui sont inconnus et qui cherchent la vérité. Et qui sont heureux d'entendre parler de l'âme. Là, c'était des théologiens, des jeunes théologiens. Vous savez, ce qu'on dit méchamment, il y a les jeunes dames et les vieilles dames qui sont très dépendantes de la mode. Et les théologiens. Qu'est-ce qui est au marché, qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce sur quoi non. Est-ce qu'on cherche la vérité ? C'est ça la philosophie. Hein. Coûte que coûte, je vous affirme, quand j'ai commencé à travailler Aristote, j'étais jeune étudiant, j'avais 22 ans, on ne l'enseignait pas au seul choix. Oui, on faisait un petit cours, mais une heure. Et je me suis mis, au début de mes études de théologie, à travailler Aristote. Pourquoi ? Parce que les voies d'accès de saint Thomas, nous en dirons un mot, je ne les comprenais pas. Et la manière dont le professeur, qui était un bon dominicain, enseignait, c'était inintelligible. Et les jeunes, quand on est jeune, on a encore suffisamment d'allant pour dire, écoutez, ce que vous dites est inintelligible. J'ai dit ça au professeur à la fin de son cours. Alors, il a eu le toupet de me dire, c'est saint Thomas. Je dis, non, saint Thomas n'est pas inintelligible. Il faut voir comment il le dit. Vous, vous avez répété ça comme c'était une vérité, sortie du contexte. Alors je me suis mis à étudier Aristote pour comprendre les voies d'accès de saint Thomas. Parce que les voies d'accès de saint Thomas jouent un rôle très important dans l'histoire de la pensée du problème que nous nous posons. Et j'ai vu alors à ce moment-là comment comprendre saint Thomas. Et qu'on voulait comprendre saint Thomas sans avoir l'intelligence de saint Thomas. C'est-à-dire, on ne peut pas être théologien si on n'est pas philosophe. C'est bien simple. Et les théologiens qui ne font plus de philosophie s'endorment. Ce sont des professeurs qui répètent. Il n'y a rien qui fait plus dormir que répéter. On a le droit de répéter une fois, hein, pour le fameux adage bis repetita placet. Hein. Ça, on peut le dire. Et deux fois. Quand c'est trois fois, quatre fois, cinq fois, on a connu l'histoire. On ne peut pas faire de théologie sans philosophie. Et quelqu'un comme Monseigneur, Cardinal Goffi, m'a dit à moi, toutes les erreurs théologiques d'aujourd'hui viennent d'erreurs philosophiques. Ce qui est très juste. J'ai jamais l'entendu du Cardinal Goffi. Toutes les erreurs. Regardez les erreurs, la philosophie de ce théologien allemand d'aujourd'hui, qui fait beaucoup parler de lui. J'ai vu son gros bouquin, hein, c'est gros comme ça. Il dit des choses, mais complètement fausses, philosophiquement fausses. C'est pas la peine de lui dire qu'il a perdu la foi. Il suffit de dire qu'il n'est plus quelqu'un qui réfléchit philosophiquement. C'est vrai, il ne réfléchit plus. Et c'est de la rhétorique. Alors ça passe. Alors, ce brave philosophe m'a invité à parler à ses étudiants. Dans la conversation, je parlais très librement. Puis d'un coup, je parle de l'âme et du corps. Je vois une étudiante de Lausanne qui est juste en face de moi, qui sourit, qui regarde son voisin, qui sourit. Alors ça, il n'y a rien de tel pour me mettre dans des saintes colères. Je dis, eh bien mademoiselle, pourquoi souriez-vous? Vous souriez, je sais pourquoi. Parce que j'ai parlé de l'âme et du corps, et que pour vous, ça ne signifie rien. Hein, c'est bien ça. Et vous faites un petit sourire de complicité vis-à-vis de votre voisine. J'ai appris après que c'était la fille d'un pasteur. Alors c'était un petit peu douloureux. Mais ça veut rien, c'était dit. Et elle n'avait qu'à pas sourire. Quand on dit une chose aussi intelligente que la distinction de la vie du corps. Alors je l'ai prise. Je lui dis, mademoiselle, est-ce que vous faites une distinction entre dormir et faire de la philosophie? Silence de mort. Ah, tiens, vous avez peur de me répondre. Pourtant, je crois que c'est évident. Pour vous tous, c'est évident, il y a une distinction entre dormir et faire de la philosophie. Si c'était la même chose, on mettrait au début d'un cours de philosophie petit air pour vous faire dormir, quoi. Si la philosophie est faite pour vous faire dormir, non. C'est distinct. C'est pour réveiller les intelligences. Puis, je l'ai laissé parce que je n'ai pas trop tracassé, puis on a continué. Puis il dit, on viendra sur la direction de la vie du corps. Puis à minuit, on est venu apporter une tasse de thé avec des gâteaux. C'était normal, on avait beaucoup parlé. Alors, tout le monde prend la tasse de thé, le petit gâteau. La discussion philosophique baisse de 1, 2, 3 degrés. Alors, je m'adresse à la personne, la même jeune fille qui était en face de moi. Je dis, vous avez remarqué la discussion philosophique n'est plus tout à fait la même que tout à l'heure, parce que ce thé est très bon. Et puis je remercie la maîtresse de maison comme ça. Ce thé est excellent. Est-ce que c'est la même chose pour vous, boire du thé ou faire de la philosophie? Silence de mort. Eh bien, tout est là. Mes expériences humaines, c'est quoi? Dormir. Boire du thé. Faire de la philosophie. Prier. Dialoguer. Toutes mes expériences. Et c'est toujours moi. Donc, il y a quelque chose qui est au-delà de cette diversité. Et qu'est-ce qui est au-delà de cette diversité? Moi. Quand je me réveille le matin, est-ce que vous vous posez le problème? Ah, c'est moi qui suis endormi hier au soir? J'espère que non. Parce que si vous posez le problème comme ça, ça devient dangereux au bout d'un certain temps. Il y aura une dichotomie complète entre la veille et le lendemain. Quand vous mangez, quand vous prenez votre petit café le matin, ici on a pris l'apéritif le matin, pour nous, c'est un cours de métaphysique. Il n'y a rien de tel que l'appétit. On fait un cours de métaphysique, sitôt l'oraison, sitôt l'élode, le matin, avant le petit déjeuner. Quand je dis ça aux jeunes, je dis, mais vous êtes pas... C'est inhumain. Non, c'est très humain. C'est le meilleur cours de philosophie de la journée. Tout le monde est très éveillé. Parce qu'on attend le petit déjeuner. Bien. Voir la diversité de nos opérations. Et voir l'unité. D'où vient l'unité? D'où vient la diversité? Quelle est cette unité? Quelle est cette diversité? Et répondez à ça. Le biologiste ne répondra pas. Non, ça n'inquiète pas. Mais le médecin, lui, sera attentif à ça. D'où vient l'unité de notre vie? C'est vrai, il y a une question forte. Est-ce que je dors pour être éveillé ou est-ce que je suis éveillé pour dormir? Question très importante dans une session philosophique. Si je suis freudien jusqu'au bout, je dois dire que je suis éveillé pour dormir. Puisque le sommeil me fait comprendre ce que je suis profondément. Et la journée, c'est le devoir, c'est le surmoi. Hein? Alors, je suis éveillé pour dormir. Vous allez très bien dormir, parce qu'on va vous fatiguer philosophiquement. Vous dormirez merveilleusement. Donc vous direz des sessions philosophiques, cure de sommeil. Il faut réfléchir sur les données très simples de notre vie. Hein? Le philosophe raisonne sur ces choses-là. Pour comprendre que nous avons nos deux regards. La première fois qu'un petit chat regarde une glace, c'est admirable. Il faut tous avoir fait cette expérience-là. Ça fait comprendre ce que c'est que l'extériorité. Le petit chat lève la patte. Il voit juste celui qui est en face, il lève la patte. C'est extraordinaire. Mais sa queue. Bon, il y a la vision extérieure et puis il y a la vision intérieure, pas pour le petit chat mais pour nous. L'intériorité vous fait comprendre ce que c'est que votre âme. Un monde qui nie l'âme, c'est un monde qui n'a plus aucune intériorité. Nous avons une connaissance affective de notre âme, notre intériorité. Mais on peut aimer l'intériorité, chercher l'intériorité, si on n'est pas un brigand, si on n'est pas un menteur, si on n'est pas un assassin, Il y a un exemple extraordinaire dans l'Écriture. Alors là, évidemment, c'est pas pour l'homme. Et vous savez, ce fameux passage de l'Évangile, quand on voit que les démons demandent à Jésus d'aller dans le troupeau de porcs. Parce que les démons, étant des assassins, étant des orgueilleux, n'ont aucun repos intérieur. Et donc, ils ne cherchent qu'une seule chose, c'est d'agir, faire quelque chose. Et tant qu'ils font quelque chose, c'est parfait. Ils sont heureux. Et dès qu'ils n'ont plus rien à faire, ils sont malheureux. Ils n'ont plus aucune intériorité. Ils ont chassé toute intériorité. Un monde qui n'a plus d'intériorité et qui ne vit que d'images. Nous y tendons avec la télévision. Les gens ne savent plus ce que c'est que réfléchir, savent plus ce que c'est que méditer. Donc, ils vivent plus que de l'extérieur. Réaliser quelque chose de non artistique. Quand il s'agit de l'art, il y a la réflexion. Il y a une intériorité. On exprime cette intériorité. Et tout vient de l'intérieur. Et quand on est uniquement en face d'une glace, l'intelligence devient le reflet. Pour les marxistes, l'intelligence est le reflet. Ce n'est plus l'intériorité. Il n'y en a plus, puisqu'ils sont matérialistes. Alors, vous voyez, il y a deux connaissances de l'âme au plan philosophique. Il y a une connaissance de l'âme par l'intériorité. Dès que vous aimez quelqu'un, vous vous intériorisez. Dès que vous aimez vraiment quelqu'un, pas uniquement au niveau passionnel, au niveau instinctif, au niveau spirituel, vous découvrez l'intériorité et vous portez au plus intime de votre cœur l'ami que vous aimez. Ça, c'est l'intériorité qui commence. Et puis, l'autre voie philosophique, qui est la voie inductive. Je constate la diversité des opérations et je constate l'unité. Il faut une source de cette unité. Et cette source de l'unité ne peut être que quelque chose qui est au-delà de la diversité de toutes mes opérations. Or, il y a la pensée, il y a l'amour, il y a l'intériorité, il y a l'extériorité. Il faut donc quelque chose qui est au-dessus de l'intériorité et de l'extériorité. Qu'est-ce que ça peut être? Quelque chose qui est au-dessus de l'aspect quantitatif, du mesurable. Il y a quelque chose qu'on saisit de l'intérieur, l'âme. Je n'insiste pas plus, hein, parce que ça ferait dévier, quoique c'est très important, parce que nous verrons que c'est par l'âme qu'on découvre Dieu. Qu'on soit aristotélicien ou platonicien, c'est toujours par l'âme qu'on découvre l'existence de Dieu. Il faut remonter, vous voyez, à Platon et Aristote. On a une expérience affective de notre âme, pas une expérience de l'âme comme source de vie, mais une expérience de l'âme dans son jaillissement. L'intériorité, prenez. Réfléchissez sur votre intériorité. Quel est votre degré d'intériorité? Quel est le lien entre la connaissance de l'âme et la découverte de l'être premier? J'y reviendrai, ça. Parce que ça, c'est très intéressant. Alors, je continue. Ou plus exactement, je m'arrête un instant, si vous voulez. Parce que je crois que c'est quand même important de voir l'importance et l'intérêt de la question que nous nous posons. L'intelligence humaine peut-elle, par elle-même, découvrir l'existence d'un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu? Et tout porte, hein, faut bien voir la question qu'on se pose. Alors, je dis l'intérêt de cette question. L'intelligence humaine, je dis l'intelligence, je ne dis pas la raison. quand même distinguer intelligence et raison. Donc, l'intelligence humaine, mon intelligence, hein, c'est plus fort. Mon intelligence, parce que c'est moi qui fais cette découverte, c'est pas mon voisin. Peut-elle, je mets peut-elle, par elle-même, c'est-à-dire sans le secours de la grâce, sans le secours de la foi chrétienne. C'est cette foi-là que je regarde en premier lieu. Peut-elle par elle-même, donc, au niveau purement philosophique, peut-elle par elle-même découvrir l'exister, mettez l'esser en latin, l'exister d'un être. Religieuse appelle Dieu. Voyez, le mot Dieu n'est pas la conclusion. Le mot Dieu n'est pas un mot philosophique. C'est très intéressant, hein. Notez ça, c'est très très intéressant de voir les mots philosophiques et les mots qui ne sont pas philosophiques. Le mot âme provient des traditions religieuses. C'est pour ça qu'il a toujours une connotation religieuse. Et c'est pour ça que des quantités de gens n'aiment pas qu'on parle de l'âme. Cette connotation religieuse, on ne peut pas le faire autrement. Le mot Dieu a une connotation religieuse. C'est sûr. De sorte que il y a des mots qui sont des mots philosophiques. Être, l'être, la vie. C'est philosophique ça. C'est la philosophie qui les a prononcés les premiers. Le mot vérité, c'est philosophique. Ça reste humain. Quand je dis philosophique, pour moi, tout ce qui est philosophique est humain. Je ne dis pas que tout ce qui est humain est philosophique. Hein ? Faites la distinction. Tout ce qui est humain n'est pas nécessairement philosophique. Tout ce qui est humain peut être regardé philosophiquement. Il y a un regard philosophique qui fait qu'on regarde les choses sous un point de vue particulier. Oui, vous entrez dans une petite église romane que vous ne connaissez pas, mais vous entrez dans une église romane. Et comme vous êtes complètement béotien, vous entrez dedans, tiens, il fait noir dans cette église. Mais c'est curieux, il n'y avait pas l'électricité encore, non. C'est curieux, cette église. Puis on regarde. C'est le touriste qui... On ne peut même pas prendre de photos, c'est noir. Non, mais on n'a même pas besoin de regarder quelque chose. Vous avez le sens de l'art roman. C'est merveilleux. Vous savez qu'il y a des points de vue qu'il faut absolument voir. On ne regarde pas l'église de la même manière quand vous êtes dans le fond de la nef, quand vous êtes au cœur, quand vous êtes sur le côté. Mille visions. Une statue, c'est comme ça. Et l'architecture, c'est comme ça. Et le visage de l'homme, c'est comme ça. Il y a des points de vue différents. On comprend ça très bien. Eh bien, c'est la même chose. On a un regard humain de celui qui est dans l'ordre économique. Et puis un regard humain de celui qui est philosophe. Il ne regarde pas de la même façon. Qu'est-ce qu'on vous apprend ici? C'est ce sens philosophique, ce regard philosophique. Découvrir les choses au plan philosophique. Tout ce qui est humain peut être regardé philosophiquement. Mais il n'est pas nécessairement philosophique, c'est pas au même niveau. Vous voyez? Vous avez une brave femme qui va vendre au marché ses légumes. elle ne fait pas de philosophie. Puis un philosophe vient, il regarde ses légumes et dit, est-ce que ces légumes existent, madame? Alors il dit, il est fou. Il est fou. Parce qu'elle s'est jamais posé la question. Elle sait bien que chez le fleuriste, on vend des fleurs qui ne sont pas poussées au potager. Ça, elle le sait. Elle le sait. Et ce qui est curieux, c'est qu'il y a des fleurs qui ont des couleurs complètement artificielles, et on essaie de faire que le naturel a de l'artificiel aujourd'hui. C'est curieux, c'est Hegelien. Hegel nous dit avec tout son sérieux qu'on ne pourrait pas goûter le chant du rossignol si on n'avait pas entendu d'abord la musique sur le rossignol. Bah, je dis l'inverse plutôt. Je suis un musicien. Très très curieux, ça, c'est intéressant pour l'ordre des choses. Est-ce que la nature nous apprend quelque chose? Moi je crois. Et beaucoup. Et bien plus qu'on ne pense. Et plus on est intelligent, plus on revient à la nature. Et plus on en a besoin de regarder le réel. L'homme. Alors vous voyez, voilà la grande question. L'intelligence, est-ce que l'intelligence humaine peut, par elle-même, sans le secours de la foi, au niveau purement philosophique, découvrir l'essai de l'être premier? C'est-à-dire conclure, il existe nécessairement un être premier qui ne peut être que cela. Et quand je dis cela, je retrouve ce que les traditions religieuses disent de Dieu, traditions religieuses purifiées de tout anthropomorphisme. Voilà la grande question. Autrement, dans un style plus direct, j'aime vous poser la question dans toute sa force. Autrement, existe-t-il un être premier qui est le Créateur? Est-ce que le Créateur existe? Ou est-ce que c'est un mythe? On a inventé ça au point de départ. Vous voyez, si je suis un homme qui cherche la vérité, je suis obligé de me poser la question. Parce que ma vie humaine prend un sens différent. Si Dieu existe et que je suis capable de l'atteindre, ça prouve qu'entre lui et moi, il y a un petit quelque chose de commun. Il y a quelque chose. C'est très difficile à préciser, mais quelque chose. Si Dieu n'existe pas, je suis le patron suprême. Je fais ce que je veux. C'est vrai. Si Dieu n'existe pas, si vraiment je suis l'être suprême, alors c'est très ennuyeux si je dis que je suis l'être suprême, parce qu'à côté de moi, il y a quelqu'un qui peut dire oui. Moi aussi. Vous entrez dans la fameuse chose, quand on entre dans l'asile, vous rentrez avec quelqu'un qui vous dit, c'est arrivé, je ne sais pas du tout raconter. Ah, vous êtes prêtre. Ah, vous allez voir, vous allez rencontrer un fou là-bas. Il dit qu'il est Dieu le Père. C'est faux, parce que moi je suis Dieu le Fils. Et c'est vrai ces choses-là. On est hanté de Dieu. On est hanté, si on n'a pas encore découvert. C'est la réalité la plus radicale. Si Dieu existe réellement et que je suis capable par moi-même de le découvrir, je suis l'imbécile des imbéciles de ne pas voir comment je peux l'atteindre. Parce que c'est quand même important si Dieu existe quand même. On se dérange pour un cardinal et pour Dieu. C'est que la très grosse différence, c'est que Dieu est absolument simple. Et qu'un cardinal, si saint qu'il soit, ne peut pas complètement. Pourtant, il est très très simple. Il est merveilleux. C'est un très saint homme. Mais il est cardinal quand même. Alors, il a un chapeau de cardinal. Ça ne peut pas être autrement. Il est cardinal. Il a une fonction importante. Si Dieu existe, il est nécessaire de se poser le problème. Je peux très bien m'arrêter en route. Parce que tous, on n'est pas capable de faire d'aller jusqu'au sommet de l'Himalaya. Arrive à un certain âge, on dira, non, je peux plus. J'ai mon cœur. Il va plus. À telle hauteur, ça va plus. Alors, on peut dire ça, n'est-ce pas ? Dans la recherche qu'on va faire, on dit, oui, je vous comprends jusque-là, oui. Avec vous, je m'élève jusqu'à 100 mètres. Premier vol d'aviation. 100 mètres, pas plus. Après, j'ai peur. Comment on va redescendre ? C'est la grande question. Monter, ça va, mais redescendre. Vous comprenez, c'est... Quand on était en bicyclette la première fois, monter, ça va, mais redescendre. On ne sait plus s'arrêter. On tourne tout le temps. Comment s'arrêter ? Alors on va monter. Si Dieu existe, il faut voir comment on peut monter jusqu'à lui. Comment on peut découvrir l'existence de Dieu. Ça me semble capital parce que ça change toute ma vie. Si je suis intelligent, ça change toute ma vie. Parce que si Dieu existe et que j'ai en moi quelque chose qui est un appel constant vers Dieu, je dois orienter toute ma vie vers Dieu. Toute ma vie. S'il existe. Parce que c'est ça qui donne le sens à tout le reste. Je dois essayer de me situer bien pour voir le soleil qui se lève. On fait des kilomètres et des kilomètres pour voir le lever du soleil. Et on ne fait aucun effort pour voir le lever de Dieu dans mon intelligence. C'est beau. Alors on va faire cet effort, puisque vous êtes intelligent et vous êtes venu là pour ça. Donc essayez de comprendre ce lever. Donc vous voyez, même si on est, on se dit athée, quand vous voyez des athées, discutez tout de suite avec eux. Tout de suite. Pour leur montrer que leur athéisme ne repose sur rien, si ce n'est un a priori affectif. On en a marre des curés. Très souvent, c'est ça. C'est pas étonnant, voulez-vous. C'est comme petit maritain, l'Église et son personnel. Alors, quand vous transposez et vous dites Dieu et son personnel, la distance est encore beaucoup plus grande. Comme nous abîmons Dieu, terriblement. Et pourtant, Dieu veut que ce soit à travers nous qu'il se manifeste. C'est quand même étonnant, ça. Ça fait partie de la grandeur unique de Dieu. Parce que les très grands n'ont pas besoin de manifestation. Ils sont simples. La simplicité est un caractère royal. De ce qui est premier. C'est l'apanage du premier. Ça, c'est philosophique. Et c'est beau comme axiome. Parce que celui qui est second regarde le premier. Donc il est plus simple. Le premier, il est premier. L'apanage du premier. Alors, si Dieu existe, je dois mettre tout mon effort pour découvrir qu'il existe. Pour découvrir s'il existe. Sans aucun a priori. Parce qu'il y a des a priori affectifs terribles. terribles. Il faut les supprimer. Il faut montrer que pour l'athée qui se dit athée, il faut lui poser la question, qu'est-ce que c'est que Dieu pour vous? Et quand il vous répond, vous pouvez tout de suite lui montrer que ce qu'il a comme vision de Dieu est fausse. Parce que sa vision de ce qu'il a n'est pas Dieu. Et c'est pour ça qu'il peut dire qu'il n'existe pas. Alors il ne sait pas ce que c'est Dieu. Il n'a pas cherché. Il dit, mon grand-père parlait de Dieu de cette façon-là. Regardez dans le dictionnaire ce qu'on dit sur Dieu. C'est intéressant. Dit Robert, Dieu est mis parmi tous les noms. C'est pas un dictionnaire catholique alors, il met pas première page Dieu. C'est ce qu'il faudrait faire, hein, si on était un tout petit peu logique. Parmi tous les noms, il y a un nom unique, Dieu. Et Dieu fait partie des séries, c'est la lettre D, hein, ou Allah. La lettre O. Tous les noms de Dieu. Qu'est-ce que signifie le nom de Dieu? Alors voyez cette question fondamentale. Si je suis chrétien et catholique, donc si je suis chrétien, je dois, par mon intelligence, distingue de la foi, voir comment je peux affirmer que Dieu existe. Pourquoi? Parce que si je suis catholique, l'Église catholique affirme que l'intelligence humaine peut atteindre l'existence de Dieu. Vatican I. Et Vatican I résume là la grande tradition des pères de l'Église jusqu'au XIIe siècle. Donc, les pères de l'Église et les premiers grands théologiens, tous, j'ai fait l'enquête parce que je voulais en avoir le cœur net, tous affirment que l'intelligence humaine peut découvrir l'exister de Dieu, mais ne peut rien dire sur ce qu'est Dieu. En grec, c'est très simple. On découvre le eis esti, et on ne découvre pas le ti esti. Donc, Dieu existe. Je peux, par mon intelligence, par un procédé qui se précisera, découvrir que Dieu existe. Mais je ne peux pas savoir ce qu'est Dieu. C'est-à-dire, je ne peux pas connaître la nature de Dieu. Je ne peux pas appréhender Dieu, ce que je vous dis ce matin. Je ne peux pas appréhender Dieu et avoir le concept de Dieu. Sartre dit, prétendre avoir un concept de Dieu, c'est nier Dieu. C'est intéressant d'entendre ça, Sartre. Pourquoi? Parce qu'un concept, c'est bien limité. Donc avoir un concept de Dieu, c'est affirmer que Dieu est limité. Affirmer que Dieu est limité, ce n'est plus Dieu. Or, des quantités de catholiques affirment qu'on a un concept de Dieu. Je sais qu'ils ne savent plus très bien ce qu'ils disent quand ils disent ça. Mais on ne devrait pas le dire. Et on ne doit pas le dire. Mais on affirme le jugement, Dieu existe. Dieu existe, le jugement. Et bien ça, les pères de l'Église, il y en a un seul, un tout petit père. Non, j'oublie complètement le nom, c'est pour ça qu'il dit, S'il était grand, je saurais son nom. Je l'ai cherché pour vous le dire, c'est intéressant. Il y en a un seul qui dit que l'intelligence humaine ne peut pas atteindre l'existence de Dieu. Tous les pères de l'Église, tous les grands théologiens, tous, de façon très diverse. J'ai pas fait l'enquête de tous les théologiens parce qu'ils sont tellement nombreux que Dieu le Père ne sait même pas leur nombre. Alors, et ils sont tellement nombreux qu'on ne sait plus. Il y a des quantités. Hein. Ce qui est sûr, c'est que tous quand même cherchent comment l'intelligence humaine peut-elle atteindre l'existence de Dieu. Jusqu'à Luther. Luther est le premier, avec son influence, qui a la foi et qui dit que l'intelligence humaine est incapable par elle-même d'atteindre l'existence de Dieu. Alors ça, c'est quand même très important. C'est un très grand tournant dans la pensée théologique dont on ressent toute l'influence aujourd'hui, puisque selon Karl Barth, le plus grand théologien luthérien, c'est Hegel. Et l'hegelianisme, aujourd'hui, a une très grande influence. On l'a dit, on a raison de le dire, au Moyen-Âge, on était aristotélicien, les théologiens étaient aristotéliciens. Aujourd'hui, les théologiens sont hegeliens. Alors oui, comme c'est intéressant. Comme c'est intéressant. La parole de Jésus. L'Église, avec le Concile de Trente, a chassé Luther. Et il rentre 7 fois plus fort par son fils, Hegel. Ça, c'est un très, très grand fait qu'on n'ose pas dire. Pourtant, je crois que c'est la vérité. Donc, il faut la dire. Et dans le problème que nous attaquons, cela, c'est capital. Pour Luther, seule la foi permet d'affirmer l'existence de Dieu. Seule la foi permet d'affirmer le Créateur. Si je n'ai pas la foi, je ne peux rien dire de vrai. Puisque le péché originel a mutilé l'intelligence humaine d'une façon telle qu'elle lui a brisé la tête. Et donc l'intelligence humaine est détruite. Seule la foi rend à l'intelligence humaine sa puissance. Et donc, les voies d'accès vis-à-vis de Dieu signifient rien du tout. Mais Hegel reconnaîtra, si on a le temps d'en dire un petit mot, parce que c'est important, Hegel reconnaîtra que la foi va donner à l'intelligence une nouvelle vigueur telle que toute la philosophie n'a pas d'autre rôle que de proclamer le Dieu trinitaire. Une philosophie qui naît de la foi. Pas une philosophie de l'intelligence dans son état naturel, mais une philosophie qui naît d'une intelligence ressuscitée par la foi. Et la vision de l'Apocalypse, sous un symbolisme étonnant, la bête de la mer a 7 têtes, et une de ces têtes est blessée à mort et elle-même se ressuscite. Et je crois que c'est ça la dialectique. La dialectique hegelienne. Exprimée symboliquement, hein, comprenez bien, à travers l'Apocalypse. C'est quand même très étonnant, ça. Alors, à partir de Luther, on voit que beaucoup de catholiques se laissent influencer, surtout actuellement, avec Hegel. De sorte qu'il y a quelques années, si je retrouve le petit livre, je vous montrerai. Il y a quelques années, il y a eu une réunion de théologiens catholiques et protestants sur ce problème. Et tous ont reconnu que la seule voie qui demeure d'accès vis-à-vis de Dieu, c'est ce que Kant a dit, encore un luthérien. Une voie d'accès morale, l'impératif catégorique. Je sais qu'il y a un devoir que je dois accomplir. Et ce devoir que je dois accomplir parle à ma conscience, et ma conscience morale, reconnaissant ce devoir, reconnaît l'existence de Dieu. Donc Dieu est impliqué dans l'impératif catégorique. Mais n'oubliez pas que Hegel, Nietzsche ont tiré des boulets rouges contre Kant, de sorte que la droite allemande aujourd'hui est kantienne. Très étonnant ça, l'histoire des idées, par rapport toujours au problème de Dieu, oui. C'est ça qui est très étonnant. Pour montrer que c'est le problème central sur lequel on vient tout le temps, sous des formes différentes. Et ce phénomène tout à fait nouveau, après Hegel, c'est cette forme d'idéologie athée qui rejette le problème de Dieu. Et qui veut uniquement regarder une anthropologie. La philosophie regarde l'homme et nie l'existence d'un être premier. Alors, si je suis catholique, je dois reconnaître, à la suite des pères de l'Église, des grands théologiens, et pour ne pas tomber dans le luthéranisme, je dois reconnaître que mon intelligence humaine est capable par elle-même de découvrir l'existence d'un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. Mais l'Église ne me dit pas le comment. Elle dit simplement que je dois dire ça. Et le comment, c'est le philosophe et le théologien qui doit le montrer. Oui, c'est pour vous montrer que ce problème que nous essayons de voir ensemble est un problème capital au point de vue humain et capital au point de vue catholique. C'est un petit dialogue que j'avais fait il y a quelques années entre le pasteur Finet, pas le prêtre Finet, le pasteur Finet, qui était à la tête d'un des grands hebdomadaires, pas un des grands, des journaux protestants, puis moi-même. Eh bien, on a convenu qu'on pourrait s'en tirer ensemble. Sauf le point le plus litu, le plus férocement attaqué. Le point le plus délicat, c'était ce problème. Lui, farouchement, jamais on pourra affirmer que l'intelligence humaine peut affirmer l'existence de Dieu. Et moi, c'est l'Église nous dit ça. Et je vous affirme que si on va jusqu'au bout des exigences d'une philosophie réaliste, on aboutit à ça. Mais il faut une philosophie réaliste qui part de l'expérience et du jugement d'existence. Autrement, aucune voie. Et je suis d'accord avec vous. Vous voyez, c'est ça qui me semble important. C'est de voir à quel moment se fait la déviation. On connaît ça très bien aujourd'hui en auto, vous savez. Combiner à peu près le temps qu'il faut pour aller d'un endroit à l'autre, autoroute, dans le temps. Vous aviez oublié une seule chose, c'est qu'on réparait cette autoroute. Toujours au bon moment. Toujours au moment où on passe. Bon, on réparait cette autoroute. Et on mettait déviation. Oh, déviation. Pire. Continuez. C'est très très bien marqué sur les deux, trois premiers kilomètres. Après, on se perd. Ceux qui connaissent la route, ça va très bien. Mais ceux qui ne la connaissent pas, non. Ils doivent demander la route. Et dès qu'on demande la route, personne ne sait. Les bons Français sont comme ça. Et vous allez voir l'indication. Puis on pousse, on ne voit rien du tout. On n'avoue jamais qu'on ne sait pas la route. On la sait toujours. Mais on se trompe sur la droite et la gauche. Déviation. Oui, c'est ça qui est difficile. Hein. C'est d'essayer de voir toutes les déviations possibles qu'il y a dans cette montée vis-à-vis de l'essence de Dieu. L'essence d'un être premier. Bon, c'est ça que je voulais vous rappeler, parce que je crois que c'est important, quand on fait une session, de comprendre que le sujet qu'on regarde, c'est le sujet le plus actuel qui soit pour l'homme de court. Il n'y a pas de sujet plus actuel que celui-là. Existe-t-il un être premier dont l'exister peut être atteint par mon intelligence? C'est quelque chose, ça. C'est important comme sujet. C'est capital. Alors, pendant toute une série de temps, les bons chrétiens croyaient. C'est suffisant. La culture était chrétienne. Maintenant que la culture n'est plus chrétienne, alors on est en face de déviation. Et personne ne sait répondre. Ou très peu, très peu. C'est pour ça que c'est important pour nous. Alors, une fois que vous voyez l'importance, je monte très rapidement, j'irai très vite, une petite topique historique. Ça va aller très vite, vous allez voir. C'est ce qu'on appelle le ski de printemps en Suisse. Non. La neige a déjà fondu, puis il y a des glaciers qui demeurent. Alors, quels sont les glaciers qui demeurent? Quels sont les philosophes, les théologiens qui affirment que l'intelligence humaine peut atteindre l'existence de Dieu? C'est intéressant de savoir ça. Premièrement, c'est comme ça qu'il faut bâtir une topique historique. Notre philosophie européenne, premier moment, la Grèce. Pas besoin d'insister beaucoup. On a vu Platon, c'est pas le premier, mais il y a eu Parménide avant. Mais Parménide, c'est par intuition que je découvre l'être. C'est par intuition que je découvre la déesse. Je donne la main à la déesse. Je suis très bien accueilli. Et par la déesse, je sais qu'il faut regarder l'être. Si on avait le temps, on lirait le poème de Parménide, qui est de toute beauté. C'est comme ça que commence la philosophie. Elle est poétique. Aujourd'hui, elle est moins poétique. Hein. Beaucoup moins poétique. Je ne sais pas si elle a progressé. Elle est moins poétique. Alors qu'elle est poétique, je ne sais pas. Elle est encore poétique chez Platon. Quand Platon ne sait plus, il invente un mythe. C'est merveilleux, ça. Il devient poète. Donc Platon reconnaît qu'avant la philosophie, il y a la poésie. Tout poète est un philosophe en herbe. Tout poète est un philosophe en herbe. La philosophie est née de la poésie. Platon. Alors ça, c'est merveilleux. Platon ne se pose pas du tout. Il se pose apologétiquement. Il montre que c'est stupide de nier l'essence de Dieu. Ça n'a pas de sens. Toute la vie humaine essaie de contempler Dieu. Et Dieu, pour lui, c'est le bien. Et là, Et après Platon, Aristote. Alors Aristote, c'est beaucoup plus sérieux. C'est moins poétique. Hein. C'est moins poétique. On se casse les dents. Moins poétique. Mais c'est admirable. Admirable. Des très très bons philosophes. Avicenne dit qu'il a commencé à comprendre la métaphysique d'Aristote avec le livre Zeta sur la substance, après avoir lu 50 fois le livre d'Aristote. Heidegger dit que le sommet de la philosophie d'Aristote, c'est la découverte de l'entelecheia. Et chaque année, il faisait un séminaire là-dessus, en éliminant tous ceux qui ne savaient pas le grec. Parce qu'il fallait lire Aristote en grec. Pour un bon philologue allemand, c'est compréhensible. On ne peut pas faire autrement. Aristote parle de Dieu. Métaphysique, lambda. C'est là où on a dit des choses sur Dieu que saint Thomas respecte. Dieu, c'est la pensée de la pensée. Noésis, noéséo. Suffisamment forte pour montrer que c'est impossible que l'homme nie Dieu, à moins d'être un peu malade. Pour Aristote, c'est net.